sur la prière, donc que j'avais préparée pour une église, une petite église protestante évangélique du Vaucluse, dont le pasteur, nouvellement arrivé, voulait, comment dire, encourager l'église dans sa prière communautaire, hein, mais en posant aussi des principes bibliques. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la prière communautaire peut être source de frustration, parce qu'au bout d'un certain temps, on a tendance un peu à tourner en rond, c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent, on a l'impression que ça devient un peu trop centré sur nos propres besoins et pas assez sur le royaume de Dieu, etc. Je crois que, en ce qui concerne la prière, on en est tous au même point, on se sent un peu handicapé finalement. On se dit, c'est quand même un domaine qu'on sait être très important, mais dans lequel voilà, personne ne pourrait avoir la prétention d'être devenu un spécialiste. Aucune église ne pourrait dire, ça c'est notre spécialité, la prière, on est vraiment super bon dans la prière. Et donc on a besoin de revenir régulièrement à la parole de Dieu, un peu dans l'état d'esprit des disciples, hein, qui observaient Jésus en train de prier et qui disent, oula, là, il y a quelque chose de particulier qui nous dépasse un petit peu. Donc Seigneur, enseigne-nous à prier. Et donc bien sûr, quand on parle de la prière, on va immédiatement aller vers le Notre Père, hein, qui est le modèle par excellence de prière. Hein. Mais il y a d'autres modèles de prière dans le Nouveau Testament. Et je vous propose de lire dans le livre des Actes, au chapitre 4, hein, les versets 23 à 31. Actes chapitre 4, les versets 23 à 31. Voilà une prière communautaire, hein, qui peut aussi voilà, nous servir de guide en quelque sorte lorsque nous sommes confrontés à certaines situations et que nous demandons au Seigneur de nous enseigner à prier de la bonne manière dans ces situations. Donc Pierre et Jean, hein, dans le chapitre précédent, ont guéri l'infirme de la belle porte. Hein, donc, suite à cette guérison, bien sûr, la foule a écouté son discours, beaucoup se sont convertis, donc c'était magnifique. Mais peu de temps après, ils sont jetés en prison, parce que bien sûr, les chefs religieux se sentent un peu menacés. Les chefs religieux sont obligés de les relâcher du fait qu'ils sont devenus très très populaires, donc on ne peut quand même pas les garder très longtemps en prison. Et c'est à ce moment-là voilà, que nous arrivons au verset 23. Donc, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent: Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés, et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, quand il s'agit d'examiner notre vie de prière, que ce soit au niveau individuel ou communautaire, nous sommes obligés de reconnaître notre faiblesse et notre incapacité à te prier de la bonne manière. Alors nous te prions ce matin de nous instruire par ta parole et de nous permettre de mieux comprendre ce que ton esprit veut nous dire à travers ce genre de texte concernant la prière que tu attends de nous. Amen. Voilà, je crois que nous sommes tous convaincus de l'importance de la prière. Je pense que rares sont les chrétiens qui diraient non, la prière, ça ne sert à rien. du moins si on croit en un Dieu vivant qui est en relation avec ses créatures hein, et qui désire aussi écouter et exaucer nos demandes. Mais souvent, lorsque nous comparons nos prières à ceux des premiers chrétiens, eh bien, nous observons que, comment dire, elles semblent être beaucoup moins efficaces finalement que celles des premiers chrétiens. Et donc, ça peut nous frustrer. On peut se demander, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que souvent je demande des choses à Dieu et même je les demande pendant des années et puis rien ne se passe hein, à tel point qu'au bout d'un moment, eh bien, on se lasse et puis on arrête de prier ou alors on prie pour autre chose ou différemment. Je crois que c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. Et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Je pense qu'une des raisons, il peut y en avoir plusieurs, mais une des raisons, c'est que notre prière n'est pas toujours très bien orientée. Est-ce que mes prières sont orientées principalement vers moi-même, finalement, vers mes propres besoins, ou est-ce que j'élève mon regard plus haut vers le royaume de Dieu, ce qui donne une toute autre perspective à ma vie de prière, hein, sans pour autant que mes besoins personnels ne soient négligés, hein, selon le principe que Jésus nous a enseigné, que lorsque nous mettons le royaume de Dieu en premier, eh bien, tout le reste nous est donné en plus. On n'a pas besoin d'en faire une priorité dans notre vie, parce que le Seigneur lui-même y pourvoira en quelque sorte. Et nous avons donc un très bon exemple hein, de prière bien orientée dans le texte que nous avons lu. C'est un peu, si vous voulez, pour une illustration pour ceux qui ont fait du tir à l'arc, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, hein, mais l'illustration reste valable. Hein, si vous ne visez pas la cible, hein, vous ne risquez pas de l'atteindre. Hein, donc, dans nos prières, c'est un peu pareil. Est-ce que nous avons clairement identifié quelle est la cible de nos prières, hein, dans quelle direction est-ce que nous sommes censés les orienter? Hein, parfois, on ne sait pas trop dans quelle direction prier. Donc on prie un peu dans tous les sens, pour tout et n'importe quoi. Et pas étonnant que finalement la cible de nos prières ne soit jamais atteinte, hein, ou la cible que Dieu voudrait placer devant nous. Donc voyons un peu ce qui se passe avec cette prière des premiers chrétiens, inspirée de l'Esprit, et qui peut nous servir de guide dans notre, quand nous nous posons la question de la meilleure façon d'orienter nos prières. Donc Pierre et Jean viennent de subir quand même une forme de persécution. Ils ont été arrêtés, ils ont été relâchés, mais ils ont été relâchés quand même avec des recommandations et même des menaces. On vous relâche, mais à condition que vous arrêtiez de parler de Jésus. Donc voilà, on est gentil avec vous, hein, on ne va pas vous garder en prison, parce qu'on aurait du mal à faire de toute façon, mais voilà, une petite condition, hein, voilà, vous allez arrêter de parler du Seigneur Jésus. Donc on peut essayer de se mettre à leur place. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on continue à annoncer l'Évangile, on risque de subir de nouvelles persécutions, notre situation risque de se graver. Mais si on arrête en même temps, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de désobéir à Dieu, hein, puisqu'ils vont dire, d'ailleurs devant les chefs religieux, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc il y a un peu cette situation où ils sont un peu coincés. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? On peut imaginer aussi qu'ils sont un peu abattus ou découragés, ou ils se posent des questions. Tout avait si bien commencé avec des guérisons, avec le jour de la Pentecôte, des conversions. Et puis maintenant, c'est les premiers obstacles, hein, c'est les premières difficultés auxquelles ils sont confrontés. Comme souvent dans toute œuvre de Dieu, il y a des périodes où on est très encouragé, où les choses se passent bien, où on commence à avoir des fruits, où les choses se développent, hein, et puis d'autres périodes où voilà, les obstacles commencent à se présenter sur notre route, hein, et là on, voilà, ça nous interpelle, et on, voilà, on est obligé quand même de s'approcher de Dieu et de lui demander ce qu'il attend de nous dans cette situation. Alors je pense que Pierre et Jean ont eu le bon réflexe, puisqu'ils sont allés, nous dit le texte, vers les leurs, c'est-à-dire vers leur famille spirituelle. Ils sont allés vers l'Église. Ils n'ont pas cherché à s'isoler, comme parfois on a tendance à le faire quand on a des difficultés. Au contraire, ils vont chercher le soutien et la prière de l'Église, prier avec l'Église, travailler ensemble à surmonter ces obstacles. Et Je dis souvent cela par rapport aux conflits qui apparaissent régulièrement dans les églises. Hein. Souvent, quand il y a un conflit, les gens ont tendance à aller chacun de son côté. On s'isole, chacun dans son clan, chacun avec ses idées, etc. Au lieu d'essayer de se retrouver devant Dieu et de surmonter ensemble ce conflit. Et quand on arrive à le faire par la grâce de Dieu, eh bien, on en ressort fortifié, un peu aussi comme dans la vie de couple. Ça peut faire du bien à un couple de traverser des crises, de les traverser ensemble et d'apprendre ensemble à se saisir de la grâce de Dieu dans cette situation difficile que l'on a traversée. Eh bien, c'est souvent la même chose dans les églises. Alors, quand on regarde de plus près la prière des premiers chrétiens, on s'aperçoit que dans un premier temps, ils ne vont pas, comment dire, présenter à Dieu leur demande, ce que nous pourrions avoir tendance à faire, hein, d'emblée présenter à Dieu nos besoins, l'appeler à l'aide, voilà, parce qu'on est vraiment centré sur nos difficultés. Mais toute la première partie de leur prière, en fait, est centrée sur Dieu. Ça, c'est assez frappant quand on regarde de plus près cette prière. Hein, ils vont prendre le temps de se replacer devant Dieu pour être sûr que leur prière et que leur demande soient bien orientées, vraiment dans la bonne direction. Eh bien, il est très important que nous puissions prendre le temps de l'adoration, prendre le temps de se replacer devant Dieu. Ce n'est que dans la mesure où, comment dire, ma vie de prière est centrée sur Dieu, eh bien que les demandes que je vais formuler dans un deuxième temps seront vraiment orientées vers la gloire de Dieu, vers l'avancement de son royaume, et pas simplement de manière égocentrique pour une vie plus confortable ou pour que voilà, mes désirs personnels puissent être satisfaits par une espèce de Dieu Père Noël ou Dieu thérapeute, hein, qui est juste là pour répondre à mes besoins quand j'en ai besoin, hein, mais le reste du temps, si tout va bien, je n'ai même plus besoin de lui. Donc ça, ce n'est pas le Dieu que nous voyons dans le Nouveau Testament. Donc on peut regarder assez rapidement, hein, la manière dont ces premiers chrétiens se placent devant Dieu et prennent le temps de le louer et de l'adorer, d'invoquer son nom sur leur situation. Première invocation ou première partie de cette invocation, Maître, hein, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il se replace, vous voyez, immédiatement devant le Dieu créateur. Voilà, on veut reprendre conscience, hein, dans cette situation difficile où les persécutions ont commencé, où des menaces ont été très clairement proférées contre les apôtres, hein, où l'avenir de l'Église est peut-être compromis. Hein, donc on est face à un grand danger. Alors devant ce grand danger, eh bien on va se replacer devant un grand Dieu. Un Dieu qui est plus grand que les menaces des hommes, un Dieu qui est plus grand que la grandeur de mes difficultés. Et ça, ça paraît tout simple, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui peut réellement nous aider quand nous sommes confrontés, je dirais, aux difficultés très concrètes de l'existence, hein, problèmes dans mes études, dans mon travail, mes finances, ma famille, la maladie ou autre, hein, de se souvenir que tout simplement le Dieu avec qui je suis en relation, le Dieu qui m'a adopté en Jésus-Christ, et le Dieu créateur du ciel et de la terre, bon, donc c'est extraordinaire hein, quand on pense à tout ce que cela implique en termes de puissance, de génie, d'intelligence et de sagesse, eh bien ce Dieu-là, comment dire, n'est pas affolé par ma situation. Hein, voilà, s'il veut intervenir, eh bien, voilà, je n'ai vraiment pas à m'inquiéter parce que il est assez grand et il est assez puissant pour gérer cette situation qui, moi, humainement, me dépasse. Donc, le simple fait de se replacer devant le Dieu créateur, eh bien, ça va être pour nous une source d'apaisement. Ça va nous permettre de nous poser un petit peu, de prendre un peu de distance aussi par rapport à la situation et de dire, attends, c'est pas la fin du monde. Hein. Dieu reste le maître absolu de la situation. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est le terme qu'il utilise ici, hein, maître, hein, toi qui as fait le ciel. Hein, maître, c'est le mot qui a donné en français despote, hein, dans le sens de maître absolu. Hein, tu es le maître absolu de l'univers. Autrement dit, tout ce qui existe est à ton service. Le mal et le bien sont également là pour servir à l'accomplissement de tous tes desseins. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée de Romains 8, 28. Hein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses qui paraissent à prime abord difficiles ou douloureuses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu est assez grand pour les faire tourner, je dirais, à notre avantage, ou en tout cas à l'avantage de son royaume. Deuxième partie de cette invocation, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, etc. etc. Donc, que font les premiers chrétiens? Eh bien, très rapidement, ils en viennent à citer la parole de Dieu. Autrement dit, leur prière, et ça c'est quand même assez frappant, leur prière est imprégnée de la parole de Dieu. C'est un principe là aussi qui doit nous aider. Quand nous ne savons pas comment prier, peut-être que plutôt que de persister à vouloir formuler des paroles maladroites devant Dieu, je peux simplement ouvrir la parole de Dieu, lire des psaumes par exemple, hein, ou chanter un cantique. Hein, et c'est la parole de Dieu qui va venir nourrir ma vie de prière. Hein. Et dans la mesure où mes prières sont imprégnées de la parole de Dieu, ben, je suis sûr que là au moins je suis dans la bonne direction. C'est quand je commence à m'écarter de la parole de Dieu et des priorités que la parole de Dieu elle-même établit, eh bien que mes prières vont commencer à partir dans des directions où elles n'honorent plus vraiment le Dieu créateur et le Dieu qui veut se glorifier aussi à travers mes prières. Il faut quand même préciser que l'écriture qui est citée ici n'est pas citée au hasard. Hein, il s'agit du psaume 2, où il est question des nations qui se sont liguées contre l'Éternel et contre celui qui avait reçu l'onction de sa part. Un psaume considéré comme messianique, hein, que les premiers chrétiens vont très rapidement appliquer à Jésus-Christ et à l'opposition qu'il a subie de la part d'Hérode et Ponce Pilate, hein, qui étaient ennemis mais qui sont devenus amis pour se liguer contre Jésus-Christ. Donc ce n'est pas non plus n'importe quelle écriture, mais dans ma vie de prière, l'Esprit va faire venir à mon esprit des paroles, des écritures qui correspondent à ma situation, que je peux appliquer à ma situation. Et dans le cas présent, bien sûr que Jésus-Christ a été persécuté, il est mort, et maintenant il est monté au ciel, donc il a retrouvé la gloire. Mais le principe s'applique à eux. Pourquoi ? Parce que, en tant que disciples de Jésus-Christ, eh bien, ils vont subir eux aussi des persécutions, parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Par conséquent, il est tout à fait légitime de penser que ces versets qui s'appliquent premièrement à Jésus-Christ en tant que Messie s'appliquent secondairement à ses disciples qui doivent s'attendre ici-bas, en tant que disciples de Jésus-Christ, à subir des persécutions lorsqu'ils mettent le royaume de Dieu en premier et qu'ils veulent le servir comme le maître absolu de l'univers. C'est un principe spirituel que Jésus a clairement enseigné à ses disciples, de telle façon que le fait de se rappeler cela, ça va aussi les aider à considérer que finalement cette situation difficile qu'ils traversent et cette opposition qu'ils rencontrent n'est pas si étrange que cela. Il ne faut pas s'en étonner parce que Jésus les avait très clairement prévenus. Donc voilà, ça va les aider aussi à accepter cette situation comme étant normale, comme faisant partie d'un combat spirituel que nous sommes tous appelés à mener ici-bas en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc face aux menaces de nos adversaires, souvenons-nous, avec, comme le dit le psaume 2, que Dieu rit et se moque de ses adversaires. C'est frappant dans le psaume 2, hein, c'est un peu comme un roi très puissant qui entendrait parler d'une émeute quelque part dans une petite ville avec un petit chef qui proférerait des menaces contre le grand roi. Ben, le roi se rit, hein, de ce petit roitelet qui se prend pour un grand roi parce qu'il n'a pas la puissance, il n'a pas les moyens de ses menaces. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu pareil. On a beau nous menacer, on a beau crier contre le royaume de Dieu et déployer toutes les puissances humaines contre le royaume de Dieu, Dieu est bien plus grand que ses adversaires. Il rit et il se moque d'eux. Donc cela aussi doit nous permettre de prendre un peu de recul par rapport à la situation et toujours de recentrer nos regards sur Dieu, le maître absolu de l'univers, qui se rit de ses adversaires, non pas avec mépris, mais dans le sens qu'il n'a pas peur de leurs menaces. Dieu n'est pas du tout impressionné par les menaces de ses adversaires. Parfois, on peut considérer l'islam comme une grande menace face à la foi chrétienne. Il y a de réelles persécutions et de réelles oppositions, des chrétiens qui sont tués de manière totalement injuste. Mais pensons que Dieu, sur son trône, se rit de ses adversaires, parce que pour lui, ce n'est rien. Du jour au lendemain, s'il veut, il peut faire disparaître cette opposition. Et finalement, nous voyons que, en se liguant contre Jésus, ses adversaires, en fait, ont fait tout ce que la main et le conseil de Dieu avaient déterminé d'avance. Donc on se recentre aussi sur le Dieu souverain, le Dieu qui est maître de toutes les situations, comme dans l'histoire de Joseph, où on avait projeté, ses frères avaient projeté de lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Voilà le Dieu que nous prions, le Dieu auquel nous nous adressons, et ça va changer aussi notre regard sur les situations que nous traversons. Voilà, donc vous voyez que c'est un exemple pour nous. Ils ont vraiment pris le temps de l'adoration. Ce n'est pas un hasard si dans nos cultes aussi, nous commençons toujours par des temps de louange et d'adoration. C'est un principe tout à fait biblique de se replacer devant Dieu, de reprendre conscience finalement de la grandeur de ce Dieu qui a fait de nous ses enfants. Mais ils vont quand même en venir à formuler devant Dieu leurs demandes. Ne devenons pas hyper spirituels et ne pensons pas que du coup, je ne vais rien demander à Dieu. Dieu connaît mes besoins avant même que j'ouvre la bouche. Non, Dieu veut aussi que je formule mes demandes, mais après que j'ai vraiment pris conscience de sa grandeur et de sa grâce. Donc voyons la nature des demandes qui sont adressées à Dieu. En fait, c'est une triple demande, pourrait-on dire. Tout d'abord, première demande, vois leurs menaces. Bon, est-ce que c'est une demande? C'est plus prête attention à leurs menaces. C'est une étrange demande parce que si j'avais été à la place des disciples, j'aurais plutôt demandé quelque chose du genre mets un terme à leurs menaces ou débarrasse-nous de nos adversaires. On aurait plutôt prié dans le sens d'une disparition des menaces qui pèsent contre nous. Ce n'est pas du tout l'objet de cette demande. Vois leurs menaces, ça veut dire, il nous suffit finalement de savoir que tu es au courant, que tu sais qu'on est menacé. Et cela suffit à nous rassurer. Si vous voulez, ce que je trouve intéressant dans cette demande, c'est que, contrairement à nous souvent, les disciples ne sont pas certains que Dieu veuille faire disparaître ces menaces du jour au lendemain. Ils ont l'humilité de considérer que peut-être ça fait partie du plan de Dieu que les persécutions continuent. Peut-être qu'il va falloir continuer à y faire face. Et vous voyez cette humilité dans la prière et dans la manière de formuler nos demandes, alors que nous, on a déjà la solution en fait. On veut presque dicter à Dieu sa volonté. Seigneur, je suis certain que ta volonté, c'est quand même que, dans cette situation-là, tu interviennes pour répondre à tel ou tel besoin. Ou alors, je suis certain que c'est ta volonté que tu me guérisses de telle ou telle maladie, parce qu'une fois que je serai guéri, je pourrai te servir avec plus de liberté ou plus d'énergie. Mais finalement, est-ce que nous sommes si certains que ce soit la volonté de Dieu ? Peut-être aussi qu'à travers ces difficultés, Dieu veut faire un travail en profondeur qui, à terme, portera encore plus de fruits que si la menace disparaissait immédiatement. Donc soyons humbles et demandons-nous finalement, est-ce que nous voulons vraiment donner des conseils à Dieu ? Est-ce que nous sommes plus intelligents que lui pour lui dire ce qu'il a à faire dans cette situation ? Ayons plutôt l'humilité un des premiers chrétiens, qui se contentent de demander à Dieu de simplement prêter attention aux menaces dont ils sont l'objet. Et cela leur suffit. On n'a pas la prétention de te demander d'y mettre un terme. On sait que tu en es capable, hein, puisque on vient de t'adorer comme étant le maître souverain de l'univers. On sait que pour toi, il suffit que tu claques des doigts et paf, les menaces vont s'arrêter. Mais voilà, on ne veut pas préjuger de ta volonté. On veut vraiment être entièrement soumis à la volonté absolue du maître dans cette situation. Il ne cherche pas, si vous voulez, à échapper à la souffrance. Alors que, voilà, beaucoup de chrétiens considèrent Dieu comme étant celui qui va leur permettre de vivre une vie plus facile ou plus confortable, qui va leur permettre d'échapper à la souffrance. Ce n'est pas du tout ça. Si on se tourne vers Dieu simplement pour échapper à la souffrance, on fait fausse route. Parce que parfois, le fait de devenir chrétien va augmenter les difficultés que nous pourrions rencontrer. Alors bien sûr, on va les vivre avec Dieu, c'est ce qui va changer les choses, mais on fait totalement fausse route si on pense que Dieu est une espèce de Père Noël qui va nous donner plein de cadeaux et qui va nous faire échapper le plus possible à la souffrance ici-bas. Il suffit de revoir un peu l'histoire de l'Église ou l'histoire des premiers chrétiens pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas et que Dieu va utiliser les épreuves, la souffrance, la maladie, les difficultés familiales, professionnelles et autres pour aussi travailler dans notre vie. Parce qu'il sait très bien que lorsque tout est calme dans nos vies, eh bien on a tendance à s'endormir et finalement à perdre de vue la grandeur de notre Dieu et la nécessité aussi de le servir comme étant le maître absolu. D'où la deuxième demande des disciples, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Voilà ce qu'ils demandent à Dieu. « Sois attentif à leurs menaces. » Bon, si tu estimes qu'elles vont continuer, qu'elles continuent, si elles doivent s'aggraver, bien qu'elles s'aggravent. Mais nous, on a quand même besoin, pour pouvoir continuer à chercher ton royaume en premier et ta justice, on a besoin que tu renouvelles notre assurance pour qu'on puisse continuer, malgré l'opposition et malgré les difficultés, à annoncer ta parole et à la mettre en pratique. Vous voyez un peu l'état d'esprit de ces premiers chrétiens, hein, plutôt que de dire, voilà, ben... quand tout ira bien, je pourrai enfin commencer à te servir normalement. Quand tu auras résolu tel ou tel problème dans ma vie, là, je te promets, je commencerai vraiment à te servir. Ce n'est pas du tout ça. C'est dans ces difficultés même, Seigneur, viens me renouveler, viens me redonner l'assurance dont j'ai besoin pour pouvoir continuer, malgré l'opposition et malgré les obstacles, à te servir comme tu le veux. Et ça, je crois que c'est un exemple aussi pour nous. C'est intéressant de voir que Pierre et Jean demandent à Dieu de leur donner de l'assurance, alors que, quand on y regarde de plus près, rien n'indique qu'il ait perdu cette assurance. Au contraire, quelques versets plus tôt, quand les autorités profèrent leurs menaces, ils vont avec beaucoup de courage dire « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Donc, quelques versets plus haut, Pierre et Jean n'ont pas du tout perdu leur assurance. Au contraire, on sent que devant leurs adversaires, Dieu les a fortifiés pour qu'ils puissent continuer à annoncer la parole de Dieu. Mais je pense que Pierre et Jean savent que cette assurance ne leur est pas naturelle et qu'à tout moment, elle peut disparaître. Pierre en avait fait l'expérience quelque temps plus tôt, quand il avait dit à Jésus, « Mais Seigneur, jusqu'à la mort, je te suivrai, tu verras, je suis un super bon disciple. » Et quelques instants plus tard, un triple reniement. Pourquoi ? Parce que Pierre s'appuyait encore sur ses forces naturelles, sur sa propre capacité à servir Dieu. Donc il a appris que cette capacité de faire preuve d'assurance devant les difficultés ne nous était pas du tout naturelle. Et que par conséquent, on a besoin régulièrement de se replacer devant Dieu afin qu'il nous renouvelle dans notre capacité et notre assurance pour le servir. Et si Pierre et Jean l'ont fait alors qu'ils avaient fait preuve déjà de beaucoup de courage quelques instants plus tôt, combien plus nous qui sommes sujets à la crainte, à l'anxiété, à la timidité quand il s'agit d'annoncer l'évangile ou de faire avancer son royaume, avons-nous besoin régulièrement de nous replacer individuellement et communautairement devant Dieu afin qu'il nous renouvelle, qu'il renouvelle notre vision, qu'il renouvelle notre capacité aussi à aller de l'avant malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. On termine avec la troisième et dernière demande, qui elle aussi ne manque pas d'intérêt pour nous. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc je ne vais pas entrer dans un grand débat là, sur l'actualité ou non des miracles. Je pense que, bien sûr, il faut distinguer entre les miracles apostoliques qui appuyaient le témoignage des apôtres et la manière dont Dieu agit aujourd'hui d'une manière différente, même s'il continue à opérer des miracles d'une autre manière dans le cadre de l'Église. Mais je crois que le principe qui nous est transmis ici, c'est que non seulement je demande à Dieu de me donner de l'assurance, mais je lui demande d'agir dans la vie des gens pour que l'évangile qui est annoncé puisse trouver une efficacité. Hein, parce qu'on est bien conscient qu'on a beau parler, on a beau ouvrir la bouche, on a beau parler avec assurance, hein, si Dieu n'agit pas dans les cœurs, si Dieu n'opère pas le miracle de la transformation du cœur dans la vie des gens, eh bien rien ne va se passer. Quand on travaille à une implantation d'église, comme c'est votre cas ici, je crois qu'on est très très bien placé pour savoir que d'un point de vue purement humain, c'est un travail totalement impossible. Hein, comment est-ce que les gens vont pouvoir venir? Pourquoi est-ce que l'Église se développerait? Pourquoi est-ce que les gens s'intéresseraient tout à coup à une petite Église qui essaye de proclamer l'Évangile? D'un point de vue humain, c'est une totale impossibilité. Et pourtant, si on remet cette situation à Dieu dans la prière, on sait que Dieu est capable d'attirer les gens, il est capable de travailler dans la vie des gens, de transformer la vie des gens. Et je pense que c'est ça, principalement, le miracle que les disciples attendent de la part de Dieu, que par l'annonce de l'Évangile, des vies puissent être transformées. Je crois que on peut proférer toutes sortes de critiques ou de menaces à l'égard de l'Église. Le plus beau témoignage que nous puissions porter à ceux du dehors, c'est que les vies sont transformées par le témoignage de l'Évangile. Des couples qui se réconcilient, des addictions que nous abandonnons, une vie qui retrouve un certain équilibre alors que je partais à la dérive. Et quand cela se passe dans l'Église, parce que le royaume de Dieu est vraiment au premier plan dans la vie de l'Église, ça ne peut pas laisser indifférent. La meilleure défense des chrétiens face aux accusations, ce sont des vies transformées au sein d'une communauté unie et solidaire, qui nous sera d'ailleurs décrite dans les versets qui suivent. En quelque sorte, Dieu fera en sorte, par son action dans l'Église, que ceux du dehors, que les observateurs extérieurs, sachent que Dieu est avec nous. Je crois qu'on parle beaucoup de croissance de l'Église avec toutes sortes de techniques plus ou moins empruntées à l'entreprise ou à plein de choses qui peuvent d'ailleurs parfois être utiles. Mais je crois que pour nous en tant que chrétiens, ce qui va favoriser une croissance véritable de l'Église, c'est la conviction que Dieu est avec nous. On voit ça dans le prophète Zacharie, où les païens se rendent à Jérusalem parce qu'ils ont pris conscience que Dieu était avec son peuple. Dieu est avec vous, alors c'est pour cela que nous venons vers vous et que nous voulons que vous nous enseigniez. Et ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières, c'est que ça devienne une évidence que nous sommes ses enfants et que Dieu est avec nous, y compris lorsque nous traversons des difficultés. Voilà, c'est à cela que nos prières devraient se résumer, que le Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a parlé dans sa parole et qui fait concourir toutes choses à notre bien, manifeste sa présence parmi nous, afin que nos adversaires soient confondus et que les hommes qui l'agréent se tournent vers lui. Amen.